Christian Bobin.
Balzac, c'est l'éblouissement amoureux, c'est le Lys dans la vallée. Une vraie lecture vous bouleverse, comme une rencontre. Et c'est une rencontre. Quelqu'un passe le seuil de la porte, entre là où vous êtes, et tout est changé. Il y a un avant et il y a un après. Et il y a un avant et un après, le Lys dans la vallée.
Ça peut pas faire de mal.
Parce que c'est l'amour pur. Le jeune homme, il a beaucoup plus le souci de sa carrière et de réussir dans le monde que d'aimer. La figure, par contre, de celle qu'il va aimer, Madame de Mortsauf, elle est pour moi inoubliable. C'est la figure du don, d'une hémorragie de soi, d'une hémorragie qui guérit l'autre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
C'est un peu aussi, étrangement, une figure maternante.
Je cède à ton désir. Aujourd'hui, tu veux mon passé, le voici. Seulement, sache-le bien, Nathalie, en t'obéissant, j'ai dû fouler aux pieds des répugnances inviolées. Pourquoi suspecter les soudaines rêveries qui me saisissent parfois en plein bonheur? Pourquoi ta jolie colère de femme aimée à propos d'un silence? Ne pouvais-tu jouer avec les contrastes de mon caractère sans en demander les causes? As-tu dans le cœur des secrets qui, pour se faire absoudre, aient besoin des miens? Enfin, tu l'as voulu. Je t'ouvre un cœur qui, depuis 12 années, ne s'était ouvert à personne. Ils vont s'en échapper dans le tien les parfums qui sema le premier amour. Oui, tu l'as pressenti, Nathalie, ma vie est dominée par un fantôme. Il se dessine vaguement au moindre mot qui le provoque et s'agite souvent de lui-même au-dessus de moi. Je souffrirais trop si je continuais à vivre près de toi sans te parler d'elle. J'ai donc écrit ce que je ne saurais dire. Écoute, ma Nathalie, toi, fille d'un Castillan, sois généreuse. Souviens-toi que tu m'as menacée si je ne t'obéissais pas. Ne me punis donc pas de t'avoir obéi. Si pour loyer de ma confession, je trouvais ton amour amoindri, je ne survivrais pas plus à la perte de mon dernier bonheur que les jeunes gens ne survivent à la ruine de leurs dernières espérances. Je voudrais que ma confidence redoublât tes tendresses. Pourquoi suis-je aujourd'hui à la merci d'un peut-être? Les gens de 30 ans sont lâches. Ils ne font plus des conditions, ils en reçoivent. Ah, l'on ne connaît l'amour qu'en traversant les profondeurs du dernier amour. Nos plus vraies passions naissent à 40 ans, âge auquel nous savons mesurer l'étendue de nos pertes, tandis que jeunes, nous ignorons les bénéfices de la vie. Pardonne-moi, cher, ces paroles, dernier grondement d'un orage qui se tait. À ce soir, Félix. Cette lettre de Félix de Vandenesse à la comtesse Nathalie de Manerville ouvre l'un des plus célèbres romans d'Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée. À la demande de sa maîtresse, Félix entreprend, sous la forme d'une correspondance, le récit malheureux de ses premières amours avec une femme mariée et mère, Madame de Mortsauf, qui, comme le Lys, incarne la pureté des sentiments et la noblesse de la vertu. Écrit en 1835, ce roman autobiographique s'inspire de la relation passionnée de Balzac avec la comtesse Laure du Berny, qui fut de 20 ans son aînée, son amante, sa muse et sa protectrice. Le roman paraît l'année suivante, année de la mort de Madame du Berny, pour qui Balzac éprouvait un amour absolu. Dans une lettre à Louise, il écrit « La personne que j'ai perdue était plus qu'une mère, plus qu'une amie, plus que toute créature peut être pour une autre. Elle ne s'explique que par la divinité. Si je vis, c'est par elle. Elle était tout pour moi. Madame de Mortsauf, du Lys, est un lointain reflet d'elle. » Ce soir, parcourons ce grand roman de l'amour sacrifié qui inspirera 30 ans plus tard l'éducation sentimentale de Flaubert. « Ce sera à fondre en larmes, je me surprends à pleurer », écrit encore Balzac. Comme lui, laissons-nous submerger donc par ces émotions violentes que suscite le conflit entre la raison et la passion, entre l'âme et le corps. Commençons par le portrait du narrateur. Un jeune provincial, naïf et maladroit, qui fait ses débuts dans le monde. écrit sous la monarchie de Juillet, Le Lys dans la vallée est aussi un roman politique qui fait la critique des intrigues politiques au début de la Restauration. Nous sommes en 1814. Après une enfance malheureuse auprès d'une mère indifférente, Félix de Vandenesse, fils cadet d'une famille aristocratique, a quitté sa région natale pour étudier à Paris. Mais à l'âge de 20 ans, il est de retour au domaine familial, à Tours, son père ayant décidé de le mettre à l'abri des tentations galantes de la capitale. C'est à l'occasion d'un bal donné par le duc d'Angoulême en faveur du retour de Louis XVIII que Félix, tel un papillon ébloui, rencontre la femme qui va bouleverser son destin. En un moment, le fils quasi dévoué devenait un personnage. Pour la première fois, j'ai eu une chemise à jabot dont les tuyaux gonflèrent ma poitrine et s'entortillèrent dans le nœud de ma cravate. Quand je fus habillée, je me ressemblais si peu que mes sœurs me donnèrent par leurs compliments le courage de paraître devant la Touraine assemblée. Entreprise ardue. Grâce à l'exiguïté de ma taille, je me faufilais sous une tente construite dans les jardins de la maison Papillon et j'arrivais près du fauteuil où trônait le prince. En un moment, je fus suffoqué par la chaleur, ébloui par les lumières, par les tentures rouges, par les ornements dorés, par les toilettes et les diamants de la première fête publique à laquelle j'assistais. J'étais poussé par une foule d'hommes et de femmes qui se ruaient les uns sur les autres et se heurtaient dans un nuage de poussière. Les cuivres ardents et les éclats bourboniens de la musique militaire étaient étouffés sous les hurrahs de « Vive le duc d'Angoulême, vive le roi, vive les Bourbons ». Cette fête était une débâcle d'enthousiasme où chacun s'efforçait de se surpasser dans le féroce empressement de courir au soleil levant des Bourbons. Véritable égoïsme de parti qui me laissa froid, me rapetissa, me replia sur moi-même. Emporté comme un fétu dans ce tourbillon, j'eus un enfantin désir d'être duc d'Angoulême, de me mêler ainsi à ces princes qui paradaient devant un public ébahi. La niaise envie du Tourangeau fit éclore une ambition que mon caractère et les circonstances ennoblirent. Trop timide pour inviter une danseuse, je devins naturellement très grimaud et ne sachant que faire de ma personne. Il était impossible de sortir. Je me réfugiais dans un coin au bout d'une banquette abandonnée où je restais les yeux fixes, immobile et boudeur. Puis tout à coup, je rencontrai la femme qui devait aiguillonner sans cesse mes ambitieux désirs et les combler en me jetant au cœur de la royauté. Trompé par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s'endormir en attendant le bon plaisir de sa mère et se posa près de moi par un mouvement d'oiseau qui s'abat sur son nid. Aussitôt, je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine et fus plus ébloui par elle que je ne l'avais été par la fête. Elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent dans mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie vertigineuse, le long de laquelle coula mon regard plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies. Le brillant des cheveux lissés au-dessus du cou velouté comme celui d'une petite fille, les lignes blanches que le peigne y avait dessinées et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère et je baisai toutes ses épaules en y roulant ma tête. Cette femme poussa un cri perçant que la musique empêcha d'entendre. Elle se retourna, me vit et me dit « Monsieur !» Ah, si elle avait dit « Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc ? Je l'aurais tué peut-être. » Mais à ce « monsieur », des larmes chaudes jaillirent de mes yeux. Je fus pétrifié par un regard animé d'une sainte colère, par une tête sublime en harmonie avec ce dos d'amour. La pourpre de la pudeur offensée étincela sur son visage que désarmait déjà le pardon de la femme qui devine des adorations infinies dans les larmes du repentir. Elle s'en alla par un mouvement de reine. Je sentis alors le ridicule de ma position. Alors seulement je compris que j'étais fagoté comme un singe. J'eus honte de moi. Je restais tout hébété, savourant la pomme que je venais de voler, gardant sur mes lèvres la chaleur de ce sang que j'avais aspiré et suivant du regard cette femme descendue des cieux. Saisi par le premier aspect charnel de la grande fièvre du cœur, j'errais dans le bal devenu désert sans pouvoir y retrouver mon inconnu. Je revins me coucher, métamorphosé. Une âme nouvelle, une âme aux ailes diaprées, avait brisé sa lave. Tombée des steppes bleues où je l'admirais, la chère étoile de mon enfance s'était donc faite femme en conservant sa clarté, ses scintillements et sa fraîcheur. J'aimais soudain, sans rien savoir de l'amour. Tandis qu'il rêve au souvenir de ses baisers volés, le jeune homme se voit contraint de prendre la clé des champs. Inquiets de sa langueur, les parents de Félix décident d'envoyer leur fils en convalescence quelques jours à la campagne, au château de Frapelle, chez l'un de leurs amis. Prêt à arpenter la Touraine pour retrouver sa belle inconnue, Félix se met en route de bonne grâce. Le hasard le conduit tout droit au domaine de sa bien-aimée. Il apprendra bientôt son nom, la comtesse de Morceau, et celui de sa propriété, un nom à la pesanteur prémonitoire, le château de Clochegourde. Mais aux premières lueurs de la passion, Félix s'émerveille de ce paysage de l'amour. Voici cette description bucolique qui donne tout son sens au titre du roman. Pour aller au château de Frapelle, les gens à pied ou à cheval abrègent la route en passant par les landes dites de Charlemagne, terre en friche située au sommet d'un plateau. Ces landes plates et sablonneuses qui vous attristent durant une lieue environ joignent par un bouquet de bois le chemin de Saché, nom de la commune d'où dépend Frapelle. Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire et semble bondir sous les châteaux posés sur ses doubles collines. Une magnifique coupe d'émeraude au fond de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpent. À cet aspect, je fus saisi d'un étonnement voluptueux que l'ennui des landes ou la fatigue du chemin avait préparé. Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, le voici. À cette pensée, je m'appuyai contre un noyer sur lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée. Elle demeurait là. Mon cœur ne me trompait point. Le premier castel que je vis au penchant d'une lande était son habitation. Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil du midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de percale produisait le point blanc que je remarquais au milieu de ses vignes. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys dans cette vallée, où elle croissait pour le ciel en la remplissant du parfum de ses vertus. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui partent de leurs dentelles mobiles ce val d'amour et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez là par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat des ailes à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnaient une voix à cette vallée frémissante. Les peupliers se balançaient en riant, pas un nuage au ciel. Les oiseaux chantaient, les cigales criaient, tout y était mélodie. Ne me demandez pas pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Je l'aime moins que je ne vous aime, chère Nathalie. Mais sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus. Sans savoir pourquoi, mes yeux revenaient au point blanc, à la femme qui brillait dans ce vaste jardin, comme au milieu des buissons verts éclaterait la clochette d'un liseron flétri si l'on y touche. Là verdoyait la plante inconnue qui jeta sur mon âme sa féconde poussière. En remontant le chemin, j'admirais ces massifs si bien disposés. Je respirais un air chargé de bonheur. La nature morale a-t-elle donc, comme la nature physique, ses communications électriques, ses rapides changements de température? Mon cœur palpitait à l'approche des événements secrets qui devaient le modifier à jamais.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Découvrons à présent le portrait de Blanche de Morceau, dont le prénom évoque à la fois la noblesse d'Ulysse et la fragilité maladive du camélia. En ce jour providentiel, Félix se rend pour la première fois au domaine de Clochegourde, où il fait la connaissance de la comtesse, puis du comte, un vieil homme violent et brutal, ainsi que de leurs deux enfants, chétifs. Tandis qu'elle est pudiquement installée à son métier à tisser, le jeune homme a tout le loisir de l'admirer. Au souvenir exalté de cette scène se mêle déjà le pressentiment du malheur à venir. Sous l'emprise de sentiments contradictoires, Félix devine la complexité d'une femme soumise à ses devoirs et tentée par la passion. Je puis vous crayonner les traits principaux qui partout eussent signalé la comtesse au regard, mais le dessin le plus correct n'en exprimerait rien encore. Sa figure exige l'introuvable artiste de qui la main sait peindre le reflet des feux intérieurs et sait rendre cette vapeur lumineuse que la parole ne traduit pas, mais que voit un amant. Son front arrondi, proéminent comme celui de la Joconde, paraissait plein d'idées inexprimées, de sentiments contenus, de fleurs noyées dans des eaux amères. Ses yeux verdâtres, semés de points bruns, étaient toujours pâles, mais s'il s'agissait de ses enfants, s'il lui échappait de ces vives effusions de joie ou de douleur, rares dans la vie des femmes résignées, son œil lançait alors une lueur subtile qui semblait s'enflammer aux sources de la vie. Un nez grec, réuni par un double arc à des lèvres élégamment sinueuses, spiritualisait son visage de forme ovale et dont le teint, comparable au tissu des camélias blancs, se rougissait aux joues par de jolis tons roses. Son corps avait la verdeur de la bruyère, son esprit avait la profonde concision du sauvage. Elle était enfant par le sentiment, grave par la souffrance. Ainsi plaisait-elle sans artifice. Par sa manière de s'asseoir, de se lever, de se taire ou de jeter un mot. Habituellement recueillie, attentive comme la sentinelle sur qui repose le salut de tous et qui épie le malheur, il lui échappait parfois des sourires qui trahissaient en elle un naturel rieur, enseveli sous le maintien exigé par sa vie. « Sa coquetterie était devenue du mystère. Elle faisait rêver au lieu d'inspirer l'attention galante que sollicitent les femmes et laissait apercevoir sa première nature de flamme vive, ses premiers rêves bleus comme on voit le ciel par des éclaircies de nuages. La rareté de ses gestes et surtout celle de ses regards, excepté ses enfants, elle ne regardait personne, donnait une incroyable solennité à ce qu'elle faisait ou disait. Ce jour-là, Madame de Morceau avait une robe rose à mille raies, une collerette à large ourlet, une ceinture noire. Ses cheveux, patiemment tordus sur sa tête, étaient retenus par un peigne d'écaille. Telle était l'imparfaite esquisse promise. Mais après avoir effleuré le frais jasmin de sa peau et bu le lait de cette coupe pleine d'amour, j'avais dans l'âme le goût et l'espérance de voluptés humaines. Je voulais vivre et attendre l'heure du plaisir comme le sauvage épie l'heure de la vengeance. Je voulais me suspendre aux arbres, ramper dans les vignes, me tapir dans l'indre. Je voulais avoir pour complice le silence de la nuit, la lassitude de la vie, la chaleur du soleil, afin d'achever la pomme délicieuse où j'avais déjà mordu. La nuit venue, quand je me trouvais dans ma petite chambre, la prescience de la vérité me fit bondir dans mon lit. Je ne supportais pas d'être à Frapelle lorsque je pouvais voir les fenêtres de sa chambre. Je m'habillai, descendis à pas de loup et sortis du château. Le froid de la nuit me rasséréna. Je passai l'Indre sur le pont du Moulin Rouge et j'arrivai en face de Clochegourde où brillait une lumière à la dernière fenêtre. Il s'éveillait en moi des idées qui glissaient comme des fantômes. L'âme et les sens étaient également charmés. Avec quelle violence mes désirs montèrent jusqu'à elle. Combien de fois je me dis, comme un insensé son refrain, « L'aurais-je ? » Si les jours précédents, l'univers s'était agrandi pour moi, dans une seule nuit, il eut un centre. À elle se rattachèrent mes vouloirs et mes ambitions. Je souhaitais d'être tout pour elle, afin de refaire et de remplir son cœur déchiré. Belle fut cette nuit passée sous ses fenêtres, au milieu du murmure des eaux filtrant à travers les vannes des moulins et entrecoupée par la voix des heures sonnée au clocher de Saché. Pendant cette nuit baignée de lumière où cette fleur sidérale m'éclaira à la vie, je lui fiançai mon âme avec la foi du pauvre chevalier castillan de qui nous nous moquons dans Cervantes et par laquelle nous commençons l'amour. Mais bientôt, les espérances de la passion s'estompent pour laisser place au seul amour possible entre eux, l'amour platonique. Félix a prolongé son séjour à la campagne. En 3 mois, il est devenu l'hôte régulier de Clochegourde et le partenaire de jeu favori du comte qui lui impose d'ennuyeuses parties de tric-trac. Devenu le confident de celle qu'il appelle désormais affectueusement Henriette, Félix partage le même secret que Madame de Morceau, une enfance malheureuse et un besoin mystique d'amour. Mais lorsqu'il lui dévoile son cœur, celle-ci lui répond par un sentiment maternel et lui propose un mariage fraternel. À l'automne, Félix se décide à monter à Paris pour y trouver un emploi. Grâce à des talents insoupçonnés en affaires, Henriette lui fait profiter de ses relations dans la société. La voici lui prodiguant ses derniers conseils et sacrifiant ses sentiments à l'avenir de son protégé. Mon cher Félix, me dit-elle après un tour fait en silence sous les arbres dépouillés, vous allez entrer dans le monde et je veux vous y accompagner en pensée. Le jour de votre départ, je vous remettrai, cher enfant, une longue lettre où vous trouverez mes pensées de femme sur le monde, sur les hommes, sur la manière d'aborder les difficultés dans ce grand remuement d'intérêt. Promettez-moi de ne la lire qu'à Paris. Je vous le promets, lui dis-je, en lui baisant les mains. Ah, dit-elle, j'ai encore un serment à vous demander, mais engagez-vous d'avance à y souscrire. Oh oui, lui dis-je, en croyant qu'il allait être question de fidélité. Il ne s'agit pas de moi, reprit-elle en souriant. Félix, ne jouez jamais dans quelque salon que ce puisse être. Je n'accepte celui de personne. « Je ne jouerai jamais, lui répondis-je. Si vous saviez, dit-elle, avec quelle anxiété je vous suivrai dans votre route, quelle joie si vous allez droit, quelle pleur si vous vous heurtez à des angles. Croyez-moi, mon affection est sans égale. Elle est à la fois involontaire et choisie. Ah, je voudrais vous voir heureux, puissant, considéré. vous qui serez pour moi comme un rêve animé. » Elle me fit pleurer. Elle était à la fois douce et terrible. Son sentiment se mettait trop audacieusement à découvert. Il était trop pur pour permettre le moindre espoir au jeune homme altéré de plaisir. En retour de ma chair, laissée en lambeaux dans son cœur, elle me versait des lueurs incessantes, incorruptibles, de ce divin amour qui ne satisfaisait que l'âme. Elle montait à des hauteurs où les ailes diaprées de l'amour qui me fit dévorer ses épaules ne pouvaient me porter. Pour arriver près d'elle, un homme devait avoir conquis les ailes blanches du séraphin. « Je veux être l'étoile et le sanctuaire », dit-elle en faisant allusion aux rêves de mon enfance et cherchant à m'en offrir la réalisation pour tromper mes désirs. « Vous serez ma religion et ma lumière. Vous serez tout », m'écriai-je. « Non, répondit-elle, je ne puis être la source de vos plaisirs. » Elle soupira et me jeta le sourire des peines secrètes, ce sourire de l'esclave un moment révolté. Dès ce jour, elle fut non pas la bien-aimée, mais la plus aimée. Elle ne fut pas dans mon cœur comme une femme qui veut une place, qui s'y grave par le dévouement ou par l'excès de plaisir, non. Elle eut tout le cœur et fit quelque chose de nécessaire au jeu des muscles. Elle devint ce qu'était la Béatrice du poème florentin, la Laure sans tache du poète vénitien, la mère des pensées, la cause involontaire des résolutions qui sauvent, le soutien de l'avenir, la lumière qui brille dans l'obscurité comme le lys dans les feuillages sombres. Oui, elle dicta ces hautes déterminations qui coupent la part au feu, qui restituent la chose en péril. Elle m'a donné cette constance à la Coligny pour vaincre les vainqueurs, pour renaître de la défaite, pour lasser les plus forts lutteurs. Je partis après quelques moments passés dans une de ces heureuses stupeurs des âmes, arrivées là où finit l'exaltation et où commence la folle extase. Je m'en allais d'un pas lent, en me retournant sans cesse. Quand je contemplais la vallée une dernière fois, je fus saisi du contraste qu'elle m'offrit en la comparant à ce qu'elle était quand je vins. Ne verdoyait-elle pas? Ne flambait-elle pas alors comme flambaient, comme verdoyaient mes désirs et mes espérances? Initié maintenant au sombre et mélancolique mystère d'une famille, partageant les angoisses d'une niobée chrétienne, triste comme elle, l'âme rembrunie, je trouvais en ce moment la vallée au ton de mes idées, sous le brun des chagrins. Avançons dans l'intrigue et découvrons combien les serments éternels sont éphémères. 4 ans ont passé, pendant lesquels Félix a fait son chemin dans le monde. Il est entré à la cour du roi. Un jour, il apprend que le comte de Morceau est gravement malade. Il court à son chevet et y relaie Henriette pendant 2 mois avec ferveur. Mais après la guérison du comte, une violente dispute survient entre eux. Félix reproche à sa bien-aimée de se sacrifier pour son mari et ses enfants. Henriette refuse de céder à l'égoïsme et lui lance ces mots cruels « Mariez-vous et laissez-moi mourir ». 6 mois plus tard, Madame de Morceau affronte une nouvelle épreuve, la maladie de son fils aîné. Au même moment, Félix succombe à une nouvelle passion. Il tombe amoureux d'une jeune et séduisante anglaise, Lady Arabelle Dudley. Voici la cruelle comparaison qu'il établit entre les deux femmes, un véritable choc des cultures. Lisez-moi, je vous en conjure, avec indulgence. Il s'agit ici d'un des problèmes les plus intéressants de la vie humaine, d'une crise à laquelle ont été soumis la plupart des hommes et que je voudrais expliquer, ne fût-ce que pour allumer un phare sur cet écueil. Cette belle lady, si svelte, si frêle, cette femme de lait, si douce, d'un front si caressant, couronnée de cheveux de couleur fauve et si fin, cette créature dont l'éclat semble phosphorescent et passager, est une organisation de fer. Quelque fougueux qu'il soit, aucun cheval ne résiste à son poignet nerveux, à cette main molle en apparence que rien ne lasse. Elle a le pied de la biche, un petit pied sec et musculeux sous une grâce d'enveloppe indescriptible. Elle est d'une force à ne rien craindre dans une lutte, Nul homme ne peut la suivre à cheval. Elle gagnerait le prix d'un steeplechase sur des centaures. Elle tire les daims et les cerfs sans arrêter son cheval. Son corps ignore la sueur. Il aspire le feu dans l'atmosphère. Aussi sa passion est-elle toute africaine. Son désir va comme le tourbillon du désert, le désert dont l'ardente immensité se peint dans ses yeux, le désert plein d'azur et d'amour, avec son ciel inaltérable, avec ses fraîches nuits étoilées. Quelle opposition avec Clochegourde, l'Orient et l'Occident. L'une attirant à elle les moindres parcelles humaines pour s'en nourrir, l'autre exsudant son âme, enveloppant ses fidèles d'une lumineuse atmosphère. Celle-ci vive et svelte, celle-là lente et grasse. Enfin, avez-vous jamais réfléchi au sens général des mœurs anglaises ? N'est-ce pas la divinisation de la matière ? Un épicurisme médité, savamment appliqué. Quoi qu'elle fasse ou dise, l'Angleterre est matérialiste, à son insu peut-être. Elle possède au plus haut degré cette science de l'existence qui bonifie les moindres parcelles de la matérialité, qui fait que votre pantoufle est la plus exquise pantoufle du monde. Qui double le cèdre et parfume les commodes, qui verse à l'heure dite un thé suave, savamment déplié, qui bannit la poussière, cloue les tapis depuis la première marche jusque dans les derniers replis de la maison, qui fait de la matière une pulpe nourrissante et cotonneuse, brillante et propre, au sein de laquelle l'âme expire sous la jouissance, qui produit l'affreuse monotonie du bien-être, et qui, pour tout dire, vous machinise. Vous comprenez déjà le problème. L'homme est composé de matière et d'esprit. L'animalité vient aboutir en lui et l'ange commence à lui. De là cette lutte que nous éprouvons tous entre un amour charnel et un amour divin. Tel homme les résout en un seul, tel autre s'abstient. Les uns flottent indécis entre les voluptés de la matière et celles de l'esprit, les autres spiritualisent la chair en lui demandant ce qu'elle ne saurait donner. Eh bien, Lady Arabelle contente les instincts, les organes, les appétits, les vices et les vertus de la matière subtile dont nous sommes faits. Elle était la maîtresse du corps. Madame de Morceau était l'épouse dans l'âme. L'amour que satisfait la maîtresse a des bornes. Je sentais souvent je ne sais quelle vide à Paris, près de Lady Dudley. L'infini est le domaine du cœur. L'amour était sans bornes à Clochegourde. J'aimais passionnément Lady Arabelle. Et certes, si la bête était sublime en elle, elle avait aussi de la supériorité dans l'intelligence. Sa conversation moqueuse embrassait tout. Mais j'adorais Henriette. La nuit, je pleurais de bonheur. Le matin, je pleurais de remords. Tourmenté par la culpabilité, Félix rend visite à Henriette pour tenter de la reconquérir. Mais Madame de Morceau, qui a appris la trahison de Félix, se meurt de chagrin. Voici le dénouement tragique de leur histoire. Quelques mois plus tôt, lors d'une promenade en calèche, Madame de Morceau découvre que Félix a un rendez-vous secret avec Lady Dudley, qui l'attend non loin de là. Lorsque l'intrépide Anglaise surgit à cheval pour les poursuivre dans la lande, Henriette comprend que tout la sépare de sa farouche rivale. Consciente d'être passée à côté de la passion, elle s'écrie « Si je me suis trompée dans la vie, elle a raison, elle. » Au comble du désespoir, elle se laisse mourir en refusant de s'alimenter. Lorsque Félix se rend à son chevet, elle est à bout de force. Dans un dernier sursaut de vie, elle se jette dans ses bras, en proie à un véritable délire des sens. Ce n'était plus ma délicieuse Henriette, ni la sublime et sainte Madame de Morceau. C'était le quelque chose sans nom de Bossuet qui se débattait contre le néant et que la faim, les désirs trompés, poussaient au combat égoïste de la vie contre la mort. Je vins m'asseoir près d'elle en lui prenant pour la baiser sa main que je sentis brûlante et desséchée. Elle devina ma douloureuse surprise dans l'effort même que je fis pour la déguiser. Ses lèvres décolorées se tendirent alors sur ses dents affamées pour essayer un de ces sourires forcés sous lesquels nous cachons également l'ironie de la vengeance, l'attente du plaisir, l'ivresse de l'âme et la rage d'une déception. « Ah, c'est la mort, mon pauvre Félix, me dit-elle, et vous n'aimez pas la mort. Ici finit l'amour, je le savais bien. Ah, pourquoi vous ai-je tant souhaité, Félix ? Vous êtes enfin venu. Je vous récompense de ce dévouement par un bien horrible spectacle. Moi qui désirais demeurer belle et grande dans votre souvenir, y vivre comme un lys éternel, je vous enlève vos illusions. Mais ne vous enfuyez pas, restez. Je vais revenir à la vie, je renaîtrai sous vos regards. Quand je recommencerai à prendre quelque nourriture, je redeviendrai belle. À peine ai-je 35 ans, je puis encore avoir de belles années. Le bonheur rajeunit et je veux connaître le bonheur. J'ai fait des projets délicieux. Nous les laisserons à Clochegourde et nous irons ensemble en Italie. Henriette, vous n'aimez donc plus notre chère vallée, lui répondis-je en me tournant vers la fenêtre, comme pour regarder les fleurs, mais pour mieux dissimuler mes larmes. Si, dit-elle en apportant son front sous mes lèvres par un mouvement de câlinerie, mais sans vous, elle est funeste. « Sans toi !» reprit-elle en effleurant mon oreille de ses lèvres chaudes pour y jeter ses deux syllabes comme deux soupirs. Je fus épouvanté par cette folle caresse. « Comme autrefois auprès du comte, vous allez me rendre à la santé, Félix, dit-elle, et ma vallée me sera bienfaisante. Vous êtes un si bon garde-malade. Auprès de vous, la vie est contagieuse. » Mon ami, prouvez-moi donc que je ne puis mourir, mourir trompé. Il croit que ma plus vive douleur est la soif. Oh oui, j'ai bien soif, mon ami. J'avais soif de toi, me dit-elle d'une voix plus étouffée, en me prenant les mains dans ses mains brûlantes et m'attirant à elle pour me jeter ses paroles à l'oreille. Mon agonie a été de ne pas te voir. Désormais, je peux vivre. Je veux monter à cheval aussi, moi. Je veux tout connaître, Paris, les fêtes, les plaisirs. Je veux être aimé. Je ferai des folies comme Lady Dudley. J'apprendrai l'anglais pour bien dire « my dear ». Ah, Nathalie, cette clameur horrible, les accents de cette voix magnifique, peignait les combats de toute une vie, les angoisses d'un véritable amour déçu. « Oui, vivre, dit-elle en me faisant me lever et s'appuyant sur moi, vivre de réalité et non de mensonge. Tout a été mensonge dans ma vie. Je les ai comptés depuis quelques jours, ces impostures. Est-il possible que je meure, moi qui n'ai pas vécu, moi qui ne suis jamais allé chercher quelqu'un dans la lande? Vous ne m'échapperez plus. » Elle fut arrêtée par une faiblesse qui survint et je la couchai tout habillée sur son lit. Elle était bien légère, mais surtout bien ardente. En la prenant, je sentis son corps entièrement brûlant. J'étais hébété de douleur. Ma vie était manquée aussi. N'aurais-je pas dû obéir à la simple vie qu'elle m'avait créée en me conservant à elle ? Ne m'avait-elle pas ordonné d'être un grand homme afin de me préserver des passions basses et honteuses que j'avais subies comme tous les hommes ? La chasteté n'était-elle pas une sublime distinction que je n'avais pas su garder ? L'amour, comme le concevait Arabelle, me dégoûtait soudain. Le soir, l'Ave Maria me parut une salutation du ciel. La prophétie était si claire et l'événement si proche que je fondis en larmes. Les murmures du soir, brise mélodieuse dans les feuillages, dernier gazouillement d'oiseaux, voix des eaux, cris plaintifs de la rainette, toute la campagne disait adieu au plus beau lys de la vallée, à sa vie simple et champêtre.
Cher inconnu, auriez-vous pris possession de ma vie, de ma vue? En terre inconnue, non, cher inconnu, si vous saviez qu'un amour transi et déçu vibrait à votre insu, non, cher inconnu, qui ne sortait jamais sans votre chair par-dessus. L'auriez-vous choisi, non, cette avenue? Deux pièces en ville avec vis-à-vis, qui fait de vous ma cible, ma belle ingénue. Tout de noir, dévêtu, déçu, cher inconnu. J'ignore votre état civil, né de père inconnu, ou enfant de la rue, non, cher inconnu. J'enchaîne aux fortes crayons les éprises de vue de votre anatomie. Si j'avais su que vous étiez facile, je serais venu au lieu de cet imbécile qui reste au-dessus. Tout de noir, dévêtu, le sais-tu, cher inconnu? Je veux tes bas couleur chair, je veux ta peau crue. La vie entière, non, cher inconnu, je l'ignorais, mais la vie est une somme de bévues, n'est qu'un point de vue, non, cette avenue coulait des jours tranquilles avant votre venue, qui me rend irascible, ma chère inconnue. Tout de noir, des vies.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Et voici en conclusion la lettre que Nathalie de Manerville adresse au narrateur en réponse à sa longue confession. Une lettre de rupture, brutale, définitive. Après la mort de Madame de Morceau, Félix rentre à Paris et se jette à corps perdu dans le travail. Il jure de ne plus connaître de femme. Mais l'existence même de Nathalie prouve une nouvelle fois qu'il ne fait que trahir ses serments. Voici en quels termes Nathalie condamne son ex-fiancé. « Vous avez manqué de tact avec moi, pauvre créature. Vous m'avez donné à entendre que je ne vous aimais ni comme Henriette, ni comme Arabelle. Aussi, je renonce à la gloire laborieuse de vous aimer. » Il faudrait trop de qualités catholiques ou anglicanes, et je ne me soucie pas de combattre des fantômes. Supprimons l'amour entre nous, puisque vous ne pouvez plus en goûter le bonheur qu'avec les mortes, et restons amis. Je le veux. Comment, cher comte, vous avez eu pour votre début dans le monde une adorable femme, une maîtresse parfaite qui songeait à votre fortune, qui vous a donné la pairie, qui vous aimait avec ivresse, qui ne vous demandait qu'à être fidèle, et vous l'avez fait mourir de chagrin. Mais je ne sais rien de plus monstrueux. Quand on a sur la conscience de pareils crimes, au moins ne faut-il pas les dire. Votre programme est inexécutable. Être à la fois Madame de Morceau et Lady Dudley, mais mon ami, n'est-ce pas vouloir réunir l'eau et le feu ? Vous avez rencontré Lady Dudley trop tôt pour pouvoir l'apprécier, et le mal que vous en dites me semble une vengeance de votre vanité blessée. Vous avez compris Madame de Morceau trop tard. Vous avez puni l'une de ne pas être l'autre. Que va-t-il m'arriver à moi qui ne suis ni l'une ni l'autre ? Je vous aime assez pour avoir profondément réfléchi à votre avenir. Votre air de chevalier à la triste figure m'a toujours profondément plu, mais j'ignorais que vous eussiez tué la plus belle et la plus vertueuse des femmes à votre entrée dans le monde. Eh bien, je me suis demandé ce qui vous reste à faire. Je crois, mon ami, qu'il faut vous marier à quelque Madame Shandy, qui ne saurait rien de l'amour ni des passions, qui ne s'inquiéterait ni de Lady Dudley ni de Madame de Morceau, qui sera très indifférente à ces moments de mélancolie pendant lesquels vous êtes amusant comme la pluie. Quant à aimer, à tressaillir d'un mot, à savoir attendre le bonheur, le donner, le recevoir, à ressentir les mille orages de la passion, à épouser les petites vanités d'une femme aimée, mon cher comte, renoncez-y. Bien peu de femmes seraient assez franches pour vous dire ce que je vous dis, et assez bonnes pour vous quitter sans rancune, comme le fait aujourd'hui celle qui se dit votre amie dévouée, Nathalie de Manerville.
Jean-Claude Carrière, vous vous prenez d'amour pour Balzac. Balzac, c'est une école du réalisme en quelque sorte, hein. C'est une ambition.
Oh, c'est bien plus que du réalisme. On parle souvent du réalisme fantastique de Balzac, et je me rappelle tous ces sujets de dissertation que nous avons eu à affronter sur justement la dimension irréelle, supra-humaine que l'on trouve dans un créateur d'univers. Ce qui m'a le plus frappé dans Balzac, au-delà de tout ce qu'on peut dire de ses faiblesses de style, comme Flaubert le lui reprochait, vous savez ce qu'il a dit, quel homme eût été Balzac s'il eût su écrire. C'est une phrase très étonnante. Mais on trouve, si vous voulez, un immense manipulateur de personnages, de sentiments, d'une richesse extraordinaire. Il faut aller jusqu'à Shakespeare ou d'autres personnages, Dostoïevski, pour trouver quelqu'un de comparable. Je trouve que dans notre panthéon littéraire, il n'a pas la place qu'il mérite encore aujourd'hui.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Pierre Mine. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Bonne soirée et à la semaine prochaine.